Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de ce numéro de Métropolez-vous, le 233e de cette émission. Nous y présentons souvent de grands projets de Toulouse Métropole dans divers domaines. Tous se rattachent à des compétences ou des missions métropolitaines bien précises et dédiées exclusivement pour la plupart à un domaine propre. D'autres compétences et missions sont plus générales, comme par exemple la prospective, la contractualisation et la coordination des politiques économiques. Ce n'est pas la mission la plus connue, mais elle a une grande importance pour organiser, structurer et donc coordonner l'ensemble de la politique métropolitaine, la feuille de route. Cette feuille de route a d'ailleurs un nom, Ambition 2028. Reste à savoir ce qu'il y a dedans et sur quels projets et actions s'appuie cette ambition pour Toulouse Métropole à l'horizon 2028, une échéance qui n'est pas si lointaine d'ailleurs et qui s'inscrit dans un contexte toujours plus incertain, ne serait-ce qu'en raison de l'évolution des tarifs de l'énergie et des matières premières. Vous expliquer de quoi est faite la feuille de route Ambition 2028, c'est l'ambition modeste du présent numéro. Et mon invité aujourd'hui est Joseph Carl, maire de Blagnac et vice-président de Toulouse Métropole, en charge de la prospective, de la contractualisation, de la coordination des politiques économiques et de la mise en œuvre de la feuille de route Ambition 2028. Bonjour monsieur le vice-président, merci d'être venu dans les studios de Radio Présence, une radio qui a des liens anciens avec Blagnac, puisque c'est dans cette ville qu'elle a commencé à émettre il y a plus de 40 ans de cela.
Oui, bonjour. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir dans cette radio, de venir parler de ce qui se passe sur notre territoire. C'est important d'avoir une radio qui nous permet effectivement de présenter ça.
Certains de nos auditeurs se posent sans doute la question, que recouvrent précisément les termes prospective et contractualisation et pourquoi était-il important d'en faire une mission métropolitaine avec une vice-présidence?
Alors, pour ce qui concerne la prospective, nous sommes sur une métropole. La métropole, elle doit non seulement traiter les problèmes au quotidien, mais également se projeter. Et donc, au fond, quelle est la métropole que nous voulons pour l'horizon 2030, 2040, 2050? Est-ce que nous voulons être dans le top 5 des entreprises et des territoires de l'aéronautique et de l'espace? Pourquoi pas dans le top 3? Donc, qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse pour arriver à cela? Comment on peut diversifier nos activités sur la santé? Comment on peut les diversifier sur les nouvelles énergies? Il y a là donc un travail important qui est à conduire. Comment on va accueillir les 9000 habitants par an? Certes, il y a un PLUIH, mais au-delà, comment on va traiter la question des mobilités? La prospective, c'est tout cela. La contractualisation, c'est que la métropole élabore effectivement des contrats avec d'autres partenaires. Il y a un contrat tripartite. Il s'appelle le contrat de plan État-Région. C'est un contrat signé entre l'État, la région et la métropole avec trois composantes. Une composante enseignement supérieur, recherche, innovation, qui permet de financer les grands labos de recherche, qui permet de financer les universités avec deux volets, un volet immobilier et avec un volet, bien sûr, d'accompagnement à la recherche et à la pédagogie. Deuxième type de contractualisation, c'est une contractualisation elle, qui est bilatérale. Entre la métropole et la région. Et ça s'appelle le CTO, le contrat territorial d'Occitanie. C'est un travail que l'on fait avec la région pour identifier les projets sur lesquels la région va nous accompagner. Et puis, le président Boudin l'a souhaité, moi j'y suis bien sûr très favorable, nous contractualisons aussi avec des territoires de proximité. On emploie un mot aujourd'hui qui est le mot « desserrement ». On ne peut pas accueillir toute l'activité économique uniquement sur le territoire de la métropole. Il faut donc que l'on travaille avec les autres territoires, les territoires de proximité, le Sicoval, le Muretel, les Hauts-de-Tolosan, le Frontonnet, etc. Mais qu'on travaille aussi dans des contrats de réciprocité avec des territoires plus éloignés. On a un contrat de réciprocité avec le Comminges et notamment avec la volonté de faire venir le veau du Comminges dans la métropole. On a un contrat de réciprocité avec Tarbes. Tarbes, c'est le démantèlement des avions. On a un contrat de réciprocité avec les portes de Gascogne et je vais bientôt travailler avec Jean-Jacques Bolzan sur un contrat de réciprocité avec l'Ariège. Voilà, la contractualisation, c'est tout ça. Et tout ça, effectivement, parce que la métropole ne peut pas agir toute seule et qu'elle est obligée ou amenée c'est pas une obligation, mais dans tous les cas, elle a la volonté de travailler avec les autres territoires qui sont autour de nous.
Autre question qu'on peut se poser concernant la contractualisation, est-ce qu'elle existe aussi entre la métropole et les communes qui la composent ?
Alors, entre la métropole et les communes, ce sont des dispositifs très particuliers. On a mis en place un fonds qu'on appelait le fonds vert. C'est-à-dire que la métropole peut accompagner les communes lorsqu'elles ont des projets qui s'inscrivent dans la transition écologique. Donc il y a là une particularité, ça a démarré il y a 2 ans à peine maintenant. On a eu la première vague qui a été déjà mise en œuvre. Et donc par exemple, quand on désimperméabilise les cours d'école, la métropole peut accompagner la commune qui va faire ça. Donc on a une enveloppe de 10 millions d'euros consacrée à ces investissements et à ce fonds vert. 1 million pour la ville de Toulouse, qui a été généreuse, elle n'a pris que 1 million. 9 millions pour les autres communes, et donc chaque commune va présenter ses projets, on les étudie, et lorsqu'on considère qu'ils vont effectivement dans le sens de la transition écologique, on assure le financement.
On n'a pas évoqué en début d'émission, mais vous êtes également en charge de la coordination des politiques économiques. En quoi consiste votre rôle dans ce domaine, et pourquoi ce pluriel, les politiques économiques ?
Alors, cette délégation était assurée par notre collègue Dominique Faure, qui a été nommé ministre, et donc le président Jean-Luc Moudenc m'a demandé de, non pas de remplacer Dominique, parce qu'on ne peut pas la remplacer, mais donc d'assurer cette coordination. Alors les politiques économiques, ça veut dire effectivement que dans cette feuille de route, qui à l'origine était la feuille de route 2022-2026, qui vient d'être rallongée jusqu'à 2028 parce que il y a naturellement une inertie dans la mise en œuvre des dispositifs et il ne faut pas pour autant remettre en question les orientations. Alors ces orientations, elles consistent en quoi ? Lorsqu'on regarde ce que la métropole est chargée de réaliser en matière de développement économique, c'est avant tout l'accueil des entreprises. Donc ça veut dire aménager pour pouvoir accueillir. C'est un premier volet et cela, on a souhaité le faire à travers des campus. C'est-à-dire qu'on accueille les entreprises de l'aéronautique, de l'espace autour du campus qui se trouve aujourd'hui à Montaudran. On veut accueillir aussi des entreprises qui sont sur les nouvelles énergies, les nouvelles mobilités. Et ça, c'est Franck Casal avec, y compris à Franck Casal, Aura Aero qui est en train de proposer l'avion électrique ou l'avion hybride. Mais la dynamique, c'est aussi la dynamique de la santé. Nous avons aujourd'hui l'oncopole. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on accueille là-dessus, à cet endroit aussi, des firmes, des entreprises qui sont dans le domaine de la recherche, mais pourquoi pas des industries du médicament, des industries, des technologies aussi, de l'intelligence artificielle au service de la santé. Le numérique, avec ce que l'on va retrouver autour de Matabio, donc de ce nouvel espace d'affaires qui va se retrouver au centre de Toulouse. Et puis le dernier, c'est que nous sommes en Occitanie, nous sommes au pays du bien manger. La preuve, c'est que la ville de Toulouse a un élu au bien manger et que nous avons aussi un pôle de compétitivité, le pôle de compétitivité alimentaire, agroalimentaire. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'il nous faut aussi un campus qui sera un campus alimentaire autour du marché d'intérêt national. Et c'est pour ça qu'on parle, premier volet, de politiques économiques en termes d'accueil. Deuxième volet, il faut aussi qu'on accompagne ces entreprises, notamment accompagner les start-up. Donc, ça veut dire être dans une politique de définition des pépinières d'entreprise. Quand on a des jeunes entreprises qui arrivent, il faut pouvoir les accueillir. Ensuite, c'est aller vers les nouvelles formes d'économie. On a parlé tout à l'heure des industries créatives et culturelles. Il y a aussi l'économie circulaire. Il y a l'économie sociale et solidaire. Il ne faut pas oublier tout ça. Et donc, il y a l'emploi qui est sous-jacent derrière les politiques économiques. Donc, quand on parle des politiques économiques, c'est précisément pour montrer que ça n'est pas chacun dans son couloir de nage, mais c'est ensemble dans un processus de partenariat, d'échange, que l'on peut arriver à conduire cette feuille de route de 2028.
Et donc votre rôle à vous en tant que vice-président, c'est justement de coordonner tout ça avec vos collègues du Conseil métropolitain qui eux sont en charge de vice-présidence dans le domaine des mobilités, dans le domaine de l'aéronautique, du spatial et puis de la recherche aussi bien entendu, du numérique et puis du bien manger.
Tout à fait. Alors, c'est ce que l'on fait. Bon, en fait, je travaille donc, bien sûr, avec Agnès Plagnier-Bertrand, que vous avez reçue, je crois, qui, elle, est sur le domaine de l'espace et de l'aéronautique, et surtout des campus. Et puis, on a l'international, On a aussi toute la dynamique autour de l'attractivité de Toulouse, autour du tourisme, et ça, c'est Jean-Claude Dardelet qui le pilote. Le numérique, parce que c'est un vrai enjeu, et nous devons à Matabiau avoir un espace pour démontrer, avoir une vitrine du numérique. C'est Bertrand Serpe qui pilote ça. Je travaille bien sûr avec Jean-Jacques Bolzan sur la question du bien manger, et d'autres collègues avec lesquels on travaille sur l'emploi. Avec Isabelle Ferrer sur l'économie circulaire, avec Vincent Terrainoves. Voilà, en fait, il y a un travail collaboratif qui se fait, et c'est vrai que ce que m'a demandé le président, c'est d'assurer la coordination de tout ça, et donc nous avons donc un comité stratégique pour partager les différents enjeux et aller vers cette feuille de route dans un processus de synergie de l'ensemble de ces politiques.
Et de même qu'on parle des politiques économiques, il faudrait parler non pas ambition 2028 au singulier, mais on pourrait dire ambition au pluriel également.
Tout à fait. Et il y a un volet dans ces ambitions 2028 qu'il ne faut pas négliger, c'est le volet de la transition écologique. Donc ça veut dire que toutes ces politiques, il faut qu'on les construise aussi en se disant, attention, on ne peut pas faire ça n'importe comment, il y a une transition écologique, elle est extrêmement importante. Et il faut qu'on soit là. Il y a bien sûr derrière la question des mobilités. Où est-ce qu'on va implanter demain les activités si on n'est pas attentif à faire en sorte qu'elles soient implantées en proximité des mobilités? Bref, tout cela doit être marqué du sceau de la cohérence et de la complémentarité. Et c'est ce à quoi je m'emploie, comme me l'a demandé le président.
Alors, il y a un an et demi, donc la feuille de route économique avait été présentée pour 2026, hein. Là, maintenant, c'est 2028, c'est parce que vous vous êtes rendu compte qu'il fallait peut-être étaler un peu plus les échéances que ce qui était prévu, peut-être aussi en tenant compte de la crise actuelle, tarifs de l'énergie, difficultés pour s'approvisionner pour certaines matières premières.
Alors, il y a tout cela, effectivement, et ce qui nous est paru véritablement très important, c'est que nous avions un axe sur la feuille de route 2026 et qu'il ne faut pas remettre en cause la trajectoire. En revanche, gérer, c'est aujourd'hui s'adapter. Donc il faut s'adapter à un nouvel environnement marqué effectivement par une hausse des coûts et par des modifications aussi parce que les choses sont là, des technologies, et tout ça fait que on va avancer sans remettre en cause véritablement les objectifs, mais en faisant en sorte que la mise en œuvre soit plus cohérente par rapport aux questions d'environnement dans lesquelles nous évoluons.
Dans la feuille de route qui avait été dévoilée donc il y a un an et demi, hein, pour 2026, maintenant 2028, il y avait 7 grandes ambitions. Vous les avez déclinées, mais il y avait 23 actions au service de ces grandes ambitions. Où en sont les actions principales aujourd'hui? Est-ce que les objectifs qui ont été fixés, on a bien gardé les mêmes, peut-être avec des échéances un petit peu différées, mais bien les mêmes?
Alors oui, et on a rendu compte d'ailleurs à notre commission, qui est la commission économie, de l'état d'avancement de la feuille de route. Alors bien sûr, elles ne sont pas toutes réalisées parce que on a encore une échéance avant la fin du mandat. Mais pour la plupart, l'engagement de ces actions a été opéré. Donc ça veut dire qu'on avait évoqué la question des industries créatrices et culturelles qui étaient dans la feuille de route. Ça y est. Et la preuve, c'est que la contractualisation avec le CNC est une des actions qui concourt à cela. De la même façon, le travail qu'on fait avec Aura Aero sur l'accueil à Franck Casal en fait partie. La réflexion autour des pépinières sur le numérique à Matabiau. Voilà. Donc ça signifie que ces orientations ne sont pas remises en cause, mais par contre qu'il faut les réaliser au fur et à mesure en fonction des opportunités.
Il y a quelque chose qui était très important, c'était qu'il était prévu de renforcer la compétence, cette compétence socle, on va l'appeler comme ça, de l'aménagement foncier et immobilier, parce qu'il faut augmenter la surface du foncier, la capacité d'accueil, pour pouvoir proposer aux entreprises intéressées des lieux d'implantation de qualité qui leur correspondent. On en est où aussi de ce point de vue? Parce que c'est pas toujours très facile à mener, ça.
Non, mais tout à fait. Alors aujourd'hui, on a...
D'autant plus qu'il y a la question du zéro artificialisation des sols.
Le zéro artificialisation net, le ZAN. Aujourd'hui, nous avons 119 zones d'activité dans la métropole. Et j'ai engagé un travail où on a identifié 10 secteurs. Et donc, j'ai rencontré les élus de chacun de ces secteurs pour leur présenter l'analyse que nous avons faite de chacun de ces secteurs pour regarder les opportunités et surtout les potentialités d'accueil d'entreprises. Étant entendu que le premier volet, c'est somme toute d'essayer de développer sur les zones existantes, à cause précisément de ce zéro artificialisation net. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus s'étaler, qu'il faudra réserver la consommation d'espaces agricoles et forestiers à des enjeux qui seront des enjeux extrêmement précis. Et donc il y a tout un travail qui a été fait, et bien sûr, il est enclenché au niveau de la métropole, mais il fait l'objet d'un partenariat avec les élus de chacun des secteurs. On a commencé, bien sûr, et j'ai réuni fin août les élus de tous les secteurs pour leur dire voilà le diagnostic qu'on peut faire de votre territoire, voilà ce que sont les zones d'activité, voilà comment on peut éventuellement les redéployer, voilà comment on peut aussi les réadapter, voilà aussi comment, à côté, on peut imaginer du développement parce qu'on n'est pas sur de la consommation de ZAN. Donc tout ça a été engagé. Bien sûr, ça va aussi servir et être introduit dans le nouveau plan local d'urbanisme et de l'habitat intercommunal, le PLUIH, qui est en préparation. Donc ça va faire partie du dossier qui va être versé dans le travail d'élaboration du PLUIH.
Il y avait deux feuilles de route un peu spécifiques dans l'ambition 2028. Il y en a une qui concerne l'aéronautique, c'est-à-dire la partie aviation décarbonée, hydrogène. C'en est où ça?
Alors, par rapport à cela, bien sûr, il y a un travail de recherche. Le travail de recherche, il va se faire sur Francazal avec le Technocampus. Technocampus, là aussi, j'ai parlé tout à l'heure de la contractualisation ou du partenariat. Le Technocampus, c'est bien sûr porté par la région avec le soutien de la métropole. C'est-à-dire que nous avons mis un foncier à disposition pour pouvoir créer ce Technocampus. Et puis, il va y avoir ensuite à développer l'avion lui-même. Et cet avion décarboné, ça veut dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse avec Airbus. Où est-ce qu'on va le mettre? Alors, on avait déjà une idée avec l'usine du 380. Le 380 s'étant arrêté, on aurait pu imaginer d'avoir là quelque chose. Or, on voit aujourd'hui que cette usine est déjà réaffectée au 321 et au 321 néo. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on aura ce travail de recherche qui est positionné à Francazal sur le Technocampus, il faudra travailler avec Airbus pour savoir où est-ce que se fera cet avion.
Et puis il y a un autre chapitre qui était prévu sur un domaine que vous avez déjà évoqué, c'est l'économie sociale et solidaire. Qu'en est-il aujourd'hui et qu'est-ce qui prévoit ce chapitre?
Alors, on a plusieurs opérations sur cette économie sociale et solidaire. On a notamment contractualisé avec un certain nombre d'associations pour avancer. Et c'est vrai que ce que l'on a voulu poser, c'est que économie sociale et solidaire, le mot important, c'est économie. Et donc faire en sorte que les processus qu'on met en place dans la création d'emplois, dans le processus environnemental, que nous soyons sur des dispositifs avec un modèle économique qui est un modèle économique équilibré. Et c'est ça ce que nous mettons en place sur l'économie sociale et solidaire.
Un dernier mot sur cette question de la hausse des tarifs de l'énergie, des difficultés d'approvisionnement en matières premières, sauf nouveaux imprévus. Bon, vous savez qu'on est dans un monde discontinu et incertain. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter quant aux échéances qui ont été fixées pour atteindre les objectifs de la feuille de route Ambition 2028? Parce que dedans, évidemment, il y a la troisième ligne de métro.
Tout à fait.
Ce n'est pas pour rien que l'échéance est 2028.
Tout à fait, c'est bien là-dessus. Sur la troisième ligne de métro, je pense qu'effectivement, l'impact de tout ce que vous avez évoqué, on l'a connu. C'est 500 millions d'euros de plus. Donc, c'est une opération à 2,3 milliards qui est devant nous. 3,2 milliards, excusez-moi. Il me semble que le plus important, c'est effectivement que cette troisième ligne, la ligne C du métro, soit à l'heure. C'est-à-dire qu'en 2028, on puisse se dire, ça y est. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui comment avancent les chantiers, aujourd'hui, ça y est, on a Toulouse qui est en chantier. Alors bien sûr, les Toulousains vont encore, et c'est normal, même les Blagnacais, ils vont dire, ouais, attends, les travaux. Sauf que on avance. C'est vrai, par exemple, que la fermeture de la ligne de tram qui desservait l'aéroport, c'est un handicap. Mais c'est nécessaire pour ensuite faire Toulouse Aéroport Express. Bref, je suis confiant. Ça a été compliqué, mais je suis confiant pour qu'on ait cela. Et c'est nécessaire, parce que c'est un des leviers, la mobilité, du développement économique. Alors qu'on ne pourra pas imaginer d'implanter des entreprises si on n'est pas en capacité aussi de résoudre ce problème des mobilités.
Eh bien, merci beaucoup, Joseph Carle, d'avoir été l'invité de ce numéro consacré à la feuille de route Ambition 2028 de Toulouse Métropole. Il y avait beaucoup d'explications à donner pour que nos auditeurs puissent comprendre le contenu et l'importance de ce document. Vous avez su le faire de manière très claire. La feuille de route Ambition 2028 est consultable sur le site de Toulouse Métropole, www.metropole.toulouse.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.